Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours ?
Les portraits ?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits ?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, bah, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, bah, j'ai mappé la foule de Strasson.
Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France ?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver.
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci.
Marmite FM vous propose d'écouter la troisième des quatre parties consacrées au parcours de Catherine Papouin, atteinte de polyarthrite chronique évolutive. Dans les premières émissions, Catherine était revenue sur sa jeunesse et les premières années de sa maladie. Ici, elle nous parle de la situation générale du handicap en France. Une interview de Nouradine Agne.
On va aborder, si vous voulez bien, Catherine, le regard que portent peut-être les Françaises et les Français sur le handicap. Vous parliez tout à l'heure de l'épisode marquant de votre maman qui vous achetait ce fameux éclair au chocolat,
oui,
et de la remarque que lui a fait la boulangère. Vous parliez également de votre épisode avec... votre envie de devenir enseignante et les bâtons qu'on a pu vous mettre dans les roues.
Ouais.
Il y a eu un film, alors vous en avez parlé dans l'interview, puisqu'on vous a déjà interviewé ici, c'est Julien qui vous avait interviewé pour la radio, vous avez parlé du film Intouchable, que ça avait pu changer sur le regard notamment des gens autour du handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement...
Alors, le film Intouchable, j'ai déjà eu quelques difficultés à aller le voir. Parce que d'abord j'ai laissé passer la foule, parce que c'est un film qui a fait une très très grosse audience. Mmh. Et puis je me disais dans ma tête, quel intérêt pour une personne handicapée, pour moi, d'aller voir un film sur le handicap. Pas évident a priori comme ça. Puis je me suis dit non, il faut quand même dépasser, il faut y aller. Donc j'y suis allée dans un cinéma d'Évreux. Il y avait encore une file d'attente hein, pour rentrer. J'ai vu ce film. Je comprends que ce soit un film qui ait touché le grand public. Il y a énormément de gens qui l'ont vu. Mmh. Et quelques jours après, en fait, j'étais en Normandie, dans une ville où les boulangeries ne sont pas accessibles. Donc, dans ces cas-là, et depuis tout le temps, hein, depuis que je fréquente cette ville, je m'arrêtais, en fait, avec mon fauteuil devant la porte d'entrée, et je demandais à la boulangère de m'apporter le pain. Et ce jour-là, en fait, c'est quelqu'un qui était dans la file d'attente de la boulangerie qui m'a proposé de l'aide.
D'accord. Et c'était la première fois ?
C'était la première fois. C'était la première fois. C'était juste pendant la sortie d'Intouchable. Enfin, c'était vraiment au moment où Intouchable faisait le plus d'audience. Et là, je me suis dit, le regard des personnes ont changé, quoi. Mmh. Et ça a été phénoménal. Ça a été une révolution. Et ce que je dis souvent, on a beau faire des spots publicitaires ou des choses de marketing, ça n'a jamais l'impact aussi puissant qu'un film de cette catégorie-là.
Mmh. Justement, je vous propose d'écouter un extrait qui va peut-être vous rappeler une des choses qui vous est arrivée, cette fameuse histoire justement avec votre éclair au chocolat. Bah, c'est repris un petit peu dans le film, c'est d'une autre manière, mais dans cet extrait, c'est Omar Sy donc, qui vient, vous savez, il vient postuler pour un poste pour s'occuper justement de François Cluzet.
Auxiliaire de vie, oui.
Voilà, pour être auxiliaire de vie. Et quand il arrive, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on lui signe son papier pour que le chômage puisse continuer à lui payer son chômage. Et du coup, quand il arrive, il dit « Mais voilà, signez-moi mon papier, là, qu'est-ce qui vous empêche de vous signer mon papier ?» Et il remarque même pas le handicap de François Cluzet, qui du coup sort avec son fauteuil et qui passe devant lui. Et après, Omar, en remarquant voilà, la vraie situation de François, il dit « Ah oui, effectivement, c'est emmerdant. » On écoute.
« Je ne suis pas en mesure de vous le signer sur le champ. »
« Ah bon, pourquoi ?»«
Pourquoi ?»
Ah,
Ouais, c'est emmerdant, ça.
Oui, okay. En fait, ouais. Justement, devant un bureau, on est... Ouais. Devant un bureau à la radio, le handicap peut disparaître. Et la radio, c'est une vraie thérapie. Hein. J'étais animatrice radio à Triangle, quand j'étais en 76-77, Triangle 103. Et pour moi, c'était une vraie thérapie parce que ça redonne, ça remet un pied d'égalité. Parce que
nous sommes tous des voix.
Voilà, on n'est que des voix à la radio.
Alors justement, on va sortir un petit peu de ce handicap, hein, si on peut s'exprimer ainsi, parce que vous parliez tout à l'heure d'une rupture amoureuse, ce qui ne vous empêchera pas par la suite de...
Ouais. Alors oui, alors là, du point de vue vie privée, vie intime...
Parce que c'est une question, si j'étais un enfant, si j'avais 8-9 ans, et que je discutais avec vous et que je posais des questions d'enfant, bah, les premières questions qui me viendraient, c'est et que si je sais pas si je parlais avec mon père ou à ma mère, en vous voyant, je dirais maman, papa, pourquoi la dame elle est dans un fauteuil? Puis je dirais aussi papa, maman, est-ce que la dame elle a un amoureux? Ou papa, maman, est-ce que la dame elle a un enfant? Elle a des enfants. Voilà. C'est des questions peut-être qui viendraient naturellement.
Des questions qui m'ont déjà été posées. Hein. Des questions un peu plus bizarres aussi. Est-ce que tu vas mourir un jour? Est-ce que tu vas mourir? Ce sont des jeunes enfants, hein, qui m'ont posé ces questions. Est-ce que tu dors dans un lit? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une... Voilà. C'est vrai que ce sont des questions. J'ai un fauteuil roulant aussi avec deux roues anti-bascule à l'avant. On m'a posé cette question il y a 15 jours, un enfant qui avait 6-7 ans. Ce sont des roues anti-bascule qui ne fonctionnent que quand je passe des trottoirs, qui ne tournent pas en fait. Et le petit garçon a demandé à sa mamie, pourquoi les roues avant ne tournent pas? Il y a plein de choses, mais il s'est juste arrêté sur ce détail. Et donc, c'était une question qui n'était pas directe, qui ne m'était pas directement posée. Et là, je me suis arrêtée gentiment, je lui ai expliqué directement au petit garçon. Et la maman m'a remercié, la mamie m'a remercié. Parce qu'elle m'a dit, excusez-moi, vous étiez en train de nous écouter. J'ai dit, oui, c'est parce que je vous ai entendu que je me suis arrêtée et répondre à la question de votre petit-fils. Oui, alors,
justement, cette vie amoureuse.
Ouais, c'est compliqué, ça. Par où commencer? C'est très très compliqué.
Déjà, vous dites aïe aïe aïe.
Ouais, aïe aïe aïe, parce que quand on est repéré handicapé, on est normalement asexué. Pour la majorité des gens. Alors, ça encore, hein, tout s'améliore. Hein, tout s'améliore au fil des années. Ça va de mieux en mieux. Mais à mon époque, le handicap. Était associé à vie, enfin tourner personne asexuée.
Qu'est-ce qu'on entend par asexuée?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel. Ça, c'est un premier point, mais il y a aussi, ça pouvait déborder sur le fait de ne pas avoir un sentiment pour l'autre, de ne pas tomber amoureuse.
C'est ce qu'on vous colle comme voilà.
C'est ce qu'on colle comme, c'était pas
la réalité. Oui.
Ce qui n'est pas la réalité, bien entendu. Moi, je suis une grande amoureuse. Hein. Donc facilement, quand j'étais jeune, dans ce foyer, en fait, je rencontre un garçon qui me plaît et qui deviendra en fait le père de ma fille.
D'accord.
J'ai une fille de 30 ans.
Qui
s'appelle Lucille. Et quand j'accouche, après, on va pas avoir tant de tout détaillé. Le père de ma fille, mais ça n'arrive pas que dans des couples où il y a une personne handicapée. Le père de ma fille prend l'ascendance en fait sur moi et dit bon, il y a plus que lui qui compte. Moi, je n'étais que bonne, entre guillemets, qu'à mettre au monde cet enfant. Et il s'accapare ma fille. Donc, je suis obligée de me séparer de lui pour conserver... Enfin, c'est compliqué. Hein. Enfin, bon, bref, je me sépare de lui. Je prends ma fille sous le bras et je quitte le domicile pour me préserver de son emprise. Et puis, j'élève ma fille toute seule jusqu'à ses... 10 ans. Enfin, quand je dis toute seule, c'est pas vraiment toute seule. Hein. C'est-à-dire
toujours.
Vous
avez toutes vos aides, toujours.
Voilà, c'est ça. Les auxiliaires de vie autour de moi. Et puis, un été, mon auxiliaire de vie habituel prend ses congés comme n'importe quel salarié.
Vous vous retrouvez toute seule ?
Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui vient faire des prestations. Mmh. Il est stagiaire, il ne travaille qu'à moi en tant que stagiaire à mois d'été, on va dire ça comme ça. Mmh. Et puis, au bout de 30 jours, 25 jours, je me suis dit, quand il vient pour m'aider aux toilettes, ce qui doit durer entre 10 minutes et un quart d'heure, on arrive à discuter une heure, deux heures, trois heures, sans jamais se passer ni l'un ni l'autre. Je me suis dit, ce garçon, il est différent. Il a une vie exceptionnelle par sa différence, parce que c'est quelqu'un qui a vécu 25 ans à l'étranger. Enfin bon, bref, du point de vue intellectuel et tout, ça se passe très très bien. Seulement 30 jours de stage, c'est très court. Mmh. Alors je me dis, j'aimerais bien continuer avec lui à discuter et voir plus si affinité. Donc je lui ai écrit une lettre parce que à l'oral, c'était trop compliqué. Et puis je me suis dit, s'il quitte son stage, il va repartir je ne sais où. On risque de plus jamais se revoir. Donc je lui ai dit une lettre comme quoi je lui étais tombée amoureux de lui et que voilà. C'est le garçon qui m'accompagne encore aujourd'hui, 25 ans après. Mmh. C'est Philippe.
C'est Philippe, qui est avec vous. Hein.
Oui, qui est avec,
moi. Avec nous aujourd'hui.
Oui.
Parce que c'est avec lui que vous êtes venu aujourd'hui. D'accord. Voilà. Belle histoire d'amour, en tout
voilà.
cas.
Voilà. Et ma fille a 30 ans, et maintenant, je suis grand-mère.
Alors, ça a changé quelque chose, parce que peut-être que... Bon, on est dans un pays où, en tout cas... Enfin, c'est pas propre à la France, mais en général, on va essentialiser les personnes. En tout cas, on va aller les cantonner à ceux... à ce qu'on voit en tout cas en premier. Par exemple, on va voir un noir, bah c'est un noir. On va voir une personne handicapée, c'est une personne handicapée et pas plus. En tout ouais. cas, c'est ce qui va être vu à prime abord.
Il y a pire.
Oui, il y a pire. Oui.
On voit un fauteuil.
Voilà, bah ça c'est encore pire effectivement. Mais avec la naissance de votre fille, vous changez un peu de statut quand même, parce que vous devenez maman.
Alors, même avant, je change de statut. Mm-hmm. De personne handicapée, je deviens salariée.
Ouais.
Ce qui est pas la même chose. Avec la naissance de ma fille, je deviens maman. Mmh. Avec l'arrivée de ma fille à l'école, je deviens parent d'élève. Mmh. Avec l'âge avançant, je ne suis plus handicapée, je suis retraitée. Ce qui est encore un autre statut. Et en fait, c'est l'intégration, la preuve d'une certaine intégration, de qualité d'intégration, c'est quand les gens vous croisent dans la rue, ils ne vous appellent, enfin, ne vous définissent plus par rapport au handicap ou par rapport à votre aspect physique, mais par rapport en fait à ce que vous êtes dans la vie réellement, ce que vous êtes comme n'importe quel être humain. Maman, salarié, chômeur, retraité.
Et ça, c'est, voilà, c'est une victoire.
Disons que c'est une preuve d'intégration et une victoire, oui. C'est vrai que c'est gagner des victoires sur la méconnaissance. Parce que quand les gens vous définissent par votre handicap, c'est parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas. Et un exemple, par exemple, quand ma fille était à l'école primaire, les parents avaient fait une pétition pour savoir, peut-être pas une pétition, mais étaient venus se plaindre auprès du directeur ou de l'institut en demandant si ma maladie n'était pas contagieuse.
D'accord.
On était dans les périodes sida. Hein. La contagion, ça faisait peur à tout le monde. Donc, comme ils n'avaient pas mis un nom sur ma maladie, je demandais si ma fille était contagieuse. Si
moi, évidemment, je vous demande même pas si c'est violent.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et donc je suis convoquée à l'école. L'institut très ennuyé en me disant, mais qu'est-ce que je vais leur répondre et tout ça. Donc, j'explique à l'institut ce que j'ai comme maladie, et ainsi de suite. Que sa grand-mère est atteinte de la même maladie que moi, c'est-à-dire de l'arthrose. Et puis après, je me suis dit, comment convaincre 30 personnes ? Avec le père et la mère, ça faisait 70 personnes quand même, hein, dans une classe de 30 personnes. Et là, j'ai eu l'idée de dire, je vais faire une fête d'anniversaire. Je vais fêter en grand l'anniversaire de ma fille, inviter tous ses copains. Enfin, c'est bon, à chaque fois qu'un enfant arrive, vous connaissez le système, il est accompagné par un parent qui le dépose et puis qui vient le reprendre à la fin de la petite fête. Puis là, je me suis dit, banco, soit il y a zéro personne.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Surtout vu les premières réactions et les questions posées.
Ouais, ben ma fille, elle avait le sourire. Moi, j'ai toujours aussi le sourire, même quand on me faisait vivre des choses aussi difficiles. Je me suis dit, banco, soit il n'y a personne, soit ils viennent tous. Et en fait, ils sont tous venus. Et là, ils se sont aperçus que je vivais dans un appartement classique, que ma fille avait une belle chambre, qu'elle avait plein de jouets. Il y avait chose que la porte était automatique pour rentrer à l'intérieur de l'immeuble et une deuxième porte automatique pour rentrer à l'intérieur de l'appartement. C'était les seules différences par rapport... Et à partir de ce moment-là, plus aucun problème.
C'est la fin de cette troisième partie d'émission consacrée à Catherine Papouin. En attendant la dernière partie, vous pouvez retrouver celle-ci et les précédentes sur le site internet de la radio marmitefm.canalblog.com. Merci à tous.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Anne.